Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, 5h-6h. Charles Matin.
Pierrick Bonneau.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RMC. Nous sommes le lundi 25 juillet 2022. C'est parti pour une nouvelle semaine. Bon courage à tous ceux qui se réveillent. Je vous accompagne jusqu'à 6h. Au sommaire ce matin, la remise sur le carburant. Le gouvernement veut finalement la prolonger et la faire passer de 18 à 30 centimes d'euros en septembre et en octobre. Fini donc cette idée d'indemnité pour les gros rouleurs qui avait été envisagée. Est-ce que c'est une bonne nouvelle selon vous? Est-ce que c'est suffisant pour compenser la hausse du prix de l'essence? Ce sera notre premier débat dans 10 minutes. Vous nous appelez d'ores et déjà au 3216 ou vous nous écrivez sur l'appli RMC onglet Direct Studio. Vous connaissez le chemin. Quentin vous attend au standard. Et puis à 5h40, on parlera ensemble des éoliennes. Le gouvernement est clairement pour et veut réduire les délais de contention en justice pour les construire plus vite. C'est la ministre Agnès Pannier-Runacher qui l'explique. Chaque étape d'un recours contre l'installation d'une éolienne ne devra pas dépasser 10 mois avant de passer à l'étape suivante. Est-ce que l'exécutif a raison de passer la seconde sur les éoliennes? Est-ce que vous êtes d'accord avec la politique énergétique du gouvernement? Le 3216 et l'appli RMC onglet Direct Studio si vous souhaitez réagir. La météo. C'est avec Hélène Gas ce matin. Bonjour Hélène.
Bonjour, c'est Estelle.
Estelle.
J'ai
écrit Estelle en plus sur mon papier, mais à ce temps-là, on a du mal à lire en général.
Oui.
Je vais retourner me coucher. Le temps aujourd'hui.
13 départements du Sud-Est sont toujours placés en vigilance orange pour canicule avec des chaleurs pouvant atteindre les 38 degrés. Sur la moitié ouest du pays, de petites averses peuvent se déclencher qui se décaleront au fil de la journée pour toucher le Sud-Est en fin d'après-midi. Quelques orages isolés pourront également avoir lieu du Limousin au centre ainsi que du Languedoc au nord-est. Et puis dans l'après-midi, ces orages toucheront les régions de Provence au centre-est. Ce matin, il fait entre 15 et 19 degrés sur le nord-ouest et entre 18 et 24 dans le sud. Cet après-midi, on attend 27 à Paris et Clermont-Ferrand, 30 à Bordeaux et jusqu'à 37 à Montélimar.
Merci Estelle Gas. Lui s'appelle bien Thibaut Texer. Il arrive pour le journal. Il est 5h.
Lundi 25 juillet,
l'info sur RMC.
Et bonjour Thibaut.
Bonjour Pierrick. Un homme en or, Kevin Mayer, décroche ce matin le titre de champion du monde de décathlon. C'est la première médaille française dans ces mondiaux d'athlétisme aux États-Unis. Lutter contre le gaspillage énergétique, objectif de l'exécutif qui annonce une réglementation accrue en la matière pour les commerces. Et puis l'opposition de gauche vent debout contre Gérald Darmanin, accusé d'outrepasser ses droits en réclamant l'expulsion d'un délinquant étranger mis hors de cause dans une agression de policier. RMC, il est 5h. Bonjour à tous.
C'est l'information de la nuit. Kevin Mayer, sacré champion du décathlon à Eugene, aux États-Unis.
Après sa médaille d'argent aux Jeux de Tokyo, le Français décroche là son deuxième titre mondial. Il redevient avec 8816 points le meilleur décathlète du monde. Aurélien Tirsin.
Kevin Mayer écroulé de bonheur sur la piste de Eugene ce matin. Il est pour la deuxième fois de sa carrière champion du monde du décathlon. Deux fois champion du monde. Seuls deux autres athlètes tricolores l'ont fait dans l'histoire. Younis Barber et Marie-Josée Pérec. Kevin Mayer apporte donc la seule médaille à la France grâce à un corps enfin retapé. Il avait mal au tendon d'Achille et le dos bloqué en arrivant cette saison à Eugene. Mais Kevin Mayer n'a pas tremblé malgré une sixième place provisoire après la première journée. Il a été moyen plus sur les courses de vitesse et au poids, mais aujourd'hui il a été excellent à la perche, solide au disque et il a écrasé la concurrence grâce au javelot. Kevin Mayer est redevenu Keke Labrèze, le meilleur du monde, bien aidé aussi par l'abandon du champion olympique en titre, le Canadien Damian Warner. Quoi qu'il en soit, c'est la septième médaille internationale de Kevin Mayer, plus que jamais vitrine de l'athlétisme tricolore.
Les précisions d'Aurélien Tirsien depuis Gino aux États-Unis pour RMC. La fin du Tour de France, le Belge Jesper Philipsen s'impose au sprint sur les Champs-Élysées à l'issue de la dernière étape. Une grande boucle remportée par Jonas Vingegaard. Premier succès sur les routes du Tour de France pour le discret Danois de 25 ans, Julien Richard.
Oui, un tour parti de chez lui au Danemark est conclu avec l'hymne danois sur les Champs-Élysées. En larmes, il y a trois semaines, lors de la présentation des équipes à Copenhague, pris par l'émotion face à l'immense foule qui scandait son nom, Jonas Vingegaard affichait cette fois un large sourire sur le podium à Paris, le maillot jaune sur le dos et sa fille dans les bras.
Merci à toute l'équipe et un énorme merci aux deux femmes de ma vie. Je n'aurais jamais été capable de réaliser cela sans elles. Merci beaucoup, je vous aime.
I love you. Peu de mots pour un garçon très discret, la silhouette frêle du haut de 1m75 pour 60 kilos et dont la carrière a longtemps été freinée par son stress, une pression paralysante.
Incroyable, bravo, bravo.
Jacques et Thomas ont fait 15 heures de route pour voir
c'est
ça.
C'est une personne qui habite au nord, un peu calme, mais quand il fait le vélo, c'est le vélo qui parle.
Moins charismatique que son dauphin Tadej Pogacar ou encore son coéquipier Wout Van Aert, mais un nouveau patron du Tour terriblement efficace.
Cosa Jonas Vingegaard.
Le premier français, David Gaudu, termine lui quatrième du général. Et puis, si vous en voulez encore, sachez qu'hier a été donné le coup d'envoi du premier Tour de France féminin. Une semaine de course entre Paris et la super planche des belles filles. Hier, c'est la hollandaise Lorena Vibes qui s'est imposée à Paris. Deuxième étape ce lundi entre Meaux et Provins.
5h03, l'actualité ce matin. Thibault, c'est aussi une bonne nouvelle pour le portefeuille des Français.
Avec la ristourne par litre de carburant accordée par le gouvernement, elle devrait être prolongée à minima jusqu'à la fin de l'année. Une remise de 30 centimes entre le 1er septembre et la fin du mois d'octobre. Avant de tomber à 10 centimes entre novembre et décembre. Mesure issue d'un compromis entre l'exécutif et les Républicains discuté en ce début de semaine à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2022. Après le pouvoir d'achat, le gouvernement s'attaque désormais à l'écologie. Hier, dans les colonnes du JDD, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher annonçait la mise en place de décrets visant à réduire d'une la pollution lumineuse via l'extinction des enseignes la nuit, mais aussi l'interdiction pour les magasins climatisés de laisser leur porte ouverte, une mesure qui s'inscrira dans le plan de sobriété énergétique annoncé par Emmanuel Macron et qui entre en vigueur ce lundi dans les rues de Paris. Lucie Raspal.
Des climatiseurs qui tournent à plein régime et pourtant certains magasins de vêtements ont les portes grandes ouvertes en plein soleil. Une aberration pour Claudia.
Je suis déjà passée devant des magasins, j'ai senti le frais dans les jambes. Bon, c'est vrai que c'est rafraîchissant, c'est un peu agréable, mais c'est comme si on voulait climatiser la rue, donc c'est un peu exagéré.
Les boutiques climatisées devront désormais garder les portes fermées sous peine d'une amende. Cette Parisienne applaudit.
Tant qu'on leur met pas une amende, ils le font pas, ils s'en fichent.
Benjamin, le directeur de ce magasin, respectera la mesure malgré une appréhension.
Par expérience, quand on ferme une porte, on a à peu près 50%, en tout cas dans notre enseigne, 50% de perte de trafic. Donc évidemment, c'est perte aussi du chiffre d'affaires.
Pourtant, devant la vitrine, Céline l'affirme, elle ne rebroussera pas chemin si les portes d'une boutique sont fermées.
Si j'ai envie d'aller acheter quelque chose de précis, je sais pas parce que la porte n'est pas ouverte que je vais pas rentrer dans le magasin.
Selon la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, laisser les portes ouvertes avec la climatisation représenterait 20% de consommation en plus.
Et autre annonce de la ministre, la réduction des délais de contentieux pour l'installation des éoliennes.
Et pendant ce temps-là, Gérald Darmanin fait parler de lui.
Quatre jours après l'agression de deux policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon, le ministre de l'Intérieur annonce sur Twitter l'expulsion d'un suspect étranger. Interpellé dans cette affaire, l'homme a pourtant été mis hors de cause. Mais selon Gérald Darmanin, cet individu en situation irrégulière et connu des autorités n'a, je cite, rien à faire dans notre pays. Le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, accuse le ministre de draguer l'extrême droite.
Il y a une certaine provocation dans le comportement du ministre de l'Intérieur. Mais c'est bien la justice qui décide de condamner éventuellement à un éloignement du territoire. Et c'est pas le ministre de l'Intérieur. Si la justice finalement l'expulse pas, ben lui il va le faire au nom de ce qu'il aurait fait. Non, pas au nom de ce qu'il aurait fait. Si ce monsieur doit être éloigné, c'est parce que s'il a une obligation de quitter le territoire, c'est une décision administrative qui n'est pas en lien avec les délits ou les crimes qu'il a pu connaître. La justice dans notre pays est indépendante de l'exécutif et il faut qu'il garde bien cela en tête. Il doit s'excuser et puis il doit être recadré également par la Première ministre.
La situation continue de s'améliorer sur le front des incendies en Gironde. Les feux sont désormais fixés à la teste de bûche. Les habitants évacués ont pu retrouver leur domicile. À Landiras, si l'incendie est loin d'être maîtrisé, il est contenu à cette heure. 1200 pompiers restent mobilisés sur place, d'autant qu'avec le retour de la chaleur, il faut rester prudent. Ce matin, 13 départements du quart sud-est restent en vigilance orange canicule. Ce mois de juillet s'annonce d'ailleurs comme l'un des plus chauds jamais enregistrés dans la région. Un épisode de chaleur persistant, difficilement supportable pour les personnes âgées. Reportage à Marseille, Clémence Fournival.
Gina est marseillaise. Elle a l'habitude de la chaleur, mais cette année, elle aimerait que l'été passe vite.
J'aimerais bien qu'on soit en décembre. Depuis le mois de mai qu'on supporte ça. Et c'est surtout la nuit, ça fatigue énormément. Ouais.
Depuis le 11 juillet, le Sud-Est a enregistré un nombre record de journées où la température maximale ne descend pas en dessous de 35 degrés. Pour Arlette et René, 78 et 75 ans, les journées sont difficiles.
On voudrait un peu de fraîcheur, que je puisse faire mes commissions, parce que j'ai des difficultés à les faire.
Me traîne partout. On n'est pas bien, c'est trop fort.
Les hôpitaux de la région recensent une augmentation des passages à l'hôpital due à la vague de chaleur qui persiste. Jérémy Chanchou, aide-soignant aux urgences d'Arles.
Actuellement, on est à 30% de passages en plus aux urgences, et pas dû totalement à la canicule, mais à l'été. C'est essentiellement chez nous les personnes âgées qui sont touchées. On les garde hospitalisées quelques jours, on les réhydrate et en principe ça va bien.
Si ce soir des orages ponctuellement virulents sont prévus en Rhône-Alpes mettant fin à la canicule, près de la Méditerranée, la vague de chaleur devrait se poursuivre au moins jusqu'à demain matin.
Le reportage de Clémence Fournival pour RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer, c'est l'heure du jeu, 5h07.
RMC, la voix du jour.
Vous nous appelez comme chaque matin au 32-16 si vous arrivez à deviner la voix du jour. Nous vous offrons un sac de plage, une crème protectrice et hydratante, Caresse Source d'eau de Kirines. Vous êtes prêts? Votre téléphone en main, 4 chiffres, 3, 2, 1, 6, le 32-16 si vous arrivez à deviner qui se cache derrière cette voix.
Je suis prêt à discuter de tout, sans tabou. J'ai mis de lignes rouges, la Corse dans la République, et j'ai dit qu'il y avait une possibilité que nous allions vers une évolution institutionnelle qui pourrait être l'autonomie. C'est une possibilité, voilà, c'est pas une obligation.
Il était en Corse ce week-end, il a créé une polémique sur Twitter à propos des délinquants étrangers, on vient d'en parler, c'est facile. Vous avez deviné, vous nous appelez au 3216, à tout de suite.
RMC, 5h-6h, Charles Matin, Pierrick Bonneau.
RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin.
Pierrick Bonneau.
Le 32-16, l'appli RMC Onglet Direct Studio pour jouer ce matin et deviner qui se cache derrière la voix du jour, mais également pour participer à notre débat, à nos débats. C'est l'heure du premier débat. La remise à la pompe devrait finalement passer de 18 à 30 centimes en septembre. Est-ce que vous êtes soulagé?
C'est la question du jour sur RMC.
Les discussions sur le deuxième paquet de mesures pour protéger notre pouvoir d'achat vont reprendre ce matin à l'Assemblée. Sujet sensible, le prix du carburant. Le gouvernement voulait remplacer la remise de 18 centimes par une indemnité pour les gros rouleurs. Eh bien, il a fait marche arrière pour satisfaire les députés LR notamment. Bruno Le Maire indique qu'il est favorable à une revalorisation de cette ristourne à la pompe qui pourrait passer de 18 à 30 centimes en septembre et en octobre, avant de retomber à 10 centimes en novembre et en décembre. Vous nous appelez au 32-16 pour réagir. Écoutez ce qu'en pensaient hier des automobilistes parisiens au micro de Sarah Amni et Benoît Ballet.
Quand Isabelle passe à la pompe à essence, c'est toujours le même constat.
J'ai pris 36 litres pour 68 euros. C'est énorme, oui, quand on doit payer ça toutes les semaines.
Cette nouvelle ristourne du gouvernement, pour elle, c'est donc un soulagement.
Ça va beaucoup me changer mon quotidien, oui, tout à fait. J'envoyais ma fille souvent à l'école en bus ou en RER, et donc maintenant j'ai pouvoir l'amener à l'école matin, midi et soir. Et puis j'ai pouvoir aller dans Paris pour faire des petits restos, des choses comme ça que je ne faisais plus à cause du prix de l'essence.
30 centimes de remise, c'est encore insuffisant pour Sacha.
Je trouve que c'est pas encore un assez gros effort parce qu'on est toujours dans des prix qui sont pas abordables pour tout le monde. Il faudrait que ça revienne à des prix beaucoup mieux, comme 1,30, 1,20, 1,40, comme on avait l'habitude de payer. Aujourd'hui, payer 80 euros un plein pour une petite voiture parisienne, moi je trouve que c'est vraiment pas le prix.
Ce coup de pouce serait valable uniquement pour les mois de septembre et octobre. Trop court aux yeux d'Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club Association.
Cette baisse de 30 centimes, c'est une bonne chose, évidemment. C'est un bon signal, mais c'est temporaire. On a toujours dit que le prix de l'essence était trop élevé à cause des taxes. 60% de taxes, faut pas l'oublier. Donc, au final, je vois pas comment on pourra, avec ce prix du pétrole qui ne cesse de grimper, comment on pourra ne pas baisser les taxes.
En revanche, l'indemnité pour les gros rouleurs qui devait succéder à la ristourne du gouvernement en janvier est reportée. Jean-Baptiste Baude, directeur des relations publiques de l'association Famille Rurale, dénonce une mesure injuste pour les automobilistes aux revenus modestes.
La spécificité du milieu rural et des personnes qui sont obligées, contraintes
de prendre leur voiture parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités, n'a pas été intégré et on reste dans la même enveloppe budgétaire. Donc on va dire que il aurait fallu que ce soit un petit peu plus juste, en fait. C'est ça que l'on essaie de dire.
À ce jour, le gouvernement évoque la mise en place d'une mesure spécifique pour les petites stations rurales.
Un reportage signé Sarah Amni et Benoît Ballet. Vous réagissez ce matin, vous témoignez, vous nous dites ce que vous en pensez. Cette ristourne vous convient ou pas? Le 32-16 et l'appli RMC onglet Direct Studio. Tout de suite, RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous.
Et tout l'été, on passe en revue les dossiers qui ont marqué cette saison. Bonjour Johanna Chabas.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous revenez, Johanna, sur l'affaire peut-être la plus frappante, l'affaire Buitoni, qui a fait énormément de bruit ces derniers mois. Toute l'équipe a révélé l'ampleur de ce scandale sanitaire. 55 enfants malades, 2 morts après avoir mangé une pizza Buitoni de la gamme Fresh Up. Vous êtes en contact avec des familles de victimes depuis le début de cette affaire. Souvent, leur enfant était encore à l'hôpital, certains avec leur vie en danger. Comment vont-elles aujourd'hui ?
Eh bien, ces familles essayent de se reconstruire malgré les séquelles. Souvenez-vous, on avait rencontré les parents de Léna, 12 ans. En avril, elle était dans un état végétatif après avoir mangé une pizza Buitoni. Ses parents, Cédric et Sophie, ne savaient pas s'ils pourraient un jour lui reparler. Depuis, Léna s'est réveillée. Elle est sortie du coma au mois de mai. Elle est dans un centre de réadaptation le jour, chez elle la nuit. Ses parents n'y croyaient plus.
Il s'est passé un miracle, parce que pour nous, c'est un miracle. Même les médecins, au départ, ne pensait pas qu'elle allait s'en sortir. On s'estime très heureux d'avoir pu la récupérer avec nous, qu'on puisse discuter avec elle, même si elle comprend pas toujours tout. Mais au moins, on a notre enfant, elle marche, elle parle, elle remange, elle est revenue à la maison, c'est déjà un grand bien pour nous.
C'est une battante, oh oui, ou que oui. Nous, on est déjà très fiers d'elle, mais elle peut être très fière d'elle. C'est sûr.
Mais le problème, c'est que Léna n'est plus la même. La bactérie Escherichia coli présente dans la pizza a produit des toxines qui ont atteint son cerveau.
Elle a des déficiences mentales, beaucoup de pertes de mémoire. Elle ne reconnaît pas tout le monde. Elle a perdu l'équivalent de 4 ans de sa vie. Lorsqu'on lui parle de sa sœur, elle se rappelle de sa sœur, mais beaucoup plus petite. Elle ne se rappelle pas ce qui s'est passé l'année dernière, l'année d'avant. Elle est très, très, très en retard. Son âge mental, il est entre 8 et 10 ans maximum 10 ans.
En fait, c'est plus du tout la même. Même au niveau du caractère, elle a un caractère qui a énormément changé, oui. Et on ne la reconnaît plus au jour d'aujourd'hui, quoi. On est très, très, très inquiets pour l'avenir de notre fille, en fait. Donc, petit à petit, on réapprend, quoi. Il lui faudra du temps, c'est sûr.
Ça va prendre du temps, c'est ce que nous disent toutes les familles. Les situations sont parfois très différentes. Pour beaucoup d'enfants, ça va mieux. Ils reprennent petit à petit une vie relativement normale, même s'ils sont suivis régulièrement par des spécialistes. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Une enfant de 7 ans, par exemple, est sortie du coma, nous racontent ses parents. Mais elle a encore des problèmes au cœur et surtout à la jambe. Les médecins réfléchissent à une amputation.
Des histoires tout simplement bouleversantes, hein, Johanna. Où en est l'enquête ?
Eh bien, on peut dire que ça prend du temps, trop, selon les parents. En mai, une information judiciaire a été ouverte, notamment pour homicide involontaire et blessure involontaire. Des perquisitions ont bien eu lieu à l'usine de Caudry où étaient préparées les pizzas et au siège de Nestlé qui détient Buitoni. Mais il n'y a pas eu d'audition à ce stade. Le président du groupe agroalimentaire a lui présenté ses excuses il y a 2 semaines et promet un fonds de soutien aux victimes qu'il va détailler le 1er septembre. Le résultat des analyses réalisées par l'entreprise devrait être connu dans les prochaines semaines.
Merci Johanna Chabas. Je vous rappelle la question du jour sur RMC. La remise à la pompe devrait finalement passer de 18 à 30 centimes en septembre. Est-ce que vous êtes soulagé ? J'accueille Rémi au 32-16. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Vous avez 33 ans, vous nous appelez d'où Rémi ?
De Grenoble.
Bon, vous faites quoi là ? Vous allez au travail ?
Ah ouais, j'y suis là, je fais du ménage.
Ah, vous y êtes, d'accord. Bah, bon courage en tout cas à vous.
Merci.
Vous utilisez votre voiture, j'imagine, pour aller au travail tous les matins ?
Oui, bien sûr.
Alors, cette ristourne qui va finalement se poursuivre. Alors, je rappelle que le gouvernement voulait la remplacer pour une indemnité gros rouleur, hein, notamment pour les travailleurs comme vous, hein, qui prennent leur voiture tous les matins pour aller travailler. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne nouvelle que cette remise carburant perdure et passe de 18 à 30 centimes à partir de septembre ?
Ben oui, c'est une bonne nouvelle. Concrètement, ça va maintenir un prix à peu près
correct, enfin correct, c'est déjà trop élevé, mais ouais. Pour les gens qui s'en servent, le problème c'est qu'on est en face d'un gouvernement qui fait tout pour pas toucher au salaire, qui fait tout pour pas qu'on soit suffisamment payé pour faire les choses qu'on a besoin de faire. On a eu une majorité qui a voté contre le fait de taxer les super profits, alors qu'il y a des gens qui ont fait des bénéfices records sur une crise où les gens étaient malades.
C'était ce week-end effectivement à l'Assemblée, ouais.
Et on nous parle d'une ristourne, on nous parle de primes, on nous parle de chèques, on nous parle. Mais les gens, ils veulent travailler, gagner leur salaire correctement et pouvoir payer les choses avec. C'est pas normal que ce soit de l'essence ou que ce soit autre chose qu'on ne puisse pas se le payer parce qu'on travaille. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, les gens ne veulent pas de chèques, ne veulent pas de primes, ne veulent pas d'aumônes. Ne veulent pas de ristourne, ils veulent un salaire.
C'est intéressant, Rémi, ce que vous dites, parce que c'est souvent l'argument des oppositions hein, ces dernières semaines, ces derniers mois. Le gouvernement fait tout pour ne pas augmenter les salaires. Mais concrètement, Rémi, comment est-ce que le gouvernement, à votre avis, pourrait forcer les entreprises, forcer les agents de l'État, les entreprises privées à augmenter les salaires ? C'est compliqué aussi pour le gouvernement. C'est difficile de forcer une entreprise à augmenter ses salariés.
Écoutez, il y a les solutions, il y a des oppositions qui les proposent, mais bon, je suis pas là pour faire la publicité de tel parti ou de tel parti ou de telle idée ou de telle idée. Le problème, c'est que il y a une demande des citoyens qui est on veut travailler et vivre de ce qu'on travaille et pas de ce qu'on nous fait l'obol à longueur d'année.
Ouais, bien sûr.
Et je veux dire, à partir de là, choisir une solution ou une autre, l'étudier, la discuter, etc., c'est à eux de le faire. Nous, on est là pour expliquer ce que nous, on veut. Mmh. Hein, on élit les gens par rapport à ça. Alors, il y a plein d'idées qui ont été... je ne vais pas vous faire le détail maintenant, on ne va pas en débattre maintenant parce que je pense que je n'ai pas le temps.
Oui,
le problème, c'est tout simplement ça. Je veux dire, quand on voit que toutes les solutions pour aller chercher de l'argent où il est, parce qu'au bout d'un moment, on sait un petit peu où il est l'argent, elles sont refusées, je veux dire, comme si c'était un truc immoral.
Ouais. Rémi, pour revenir simplement sur le carburant, vous habitez loin de votre lieu de travail, vous ?
Là, par exemple, ce matin, je suis obligé de faire 25 km aller-retour.
Ouais. Parce que
mon premier chantier.
Vous déplacez de lieu en lieu, en fait, c'est ça ?
Ah oui, quand je t'en fais du ménage, c'est ça. Hein, c'est...
Ouais. Il y a David qui nous a écrit sur l'appli RMC qui nous dit « Moi, je pense qu'il y a une solution, c'est faire en sorte de rapprocher les personnes de leur emploi, quand c'est possible. »
Il y a beaucoup de cas où c'est possible, mais il y a aussi beaucoup de cas où c'est pas possible. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui pourraient ne pas aller travailler avec un véhicule personnel. Les gens qui se baladent avec juste un attaché-caisse et qui vont d'une périphérie à un centre-ville, si vous voulez, ils peuvent prendre le bus. Mais moi, je trimballe du matériel, j'ai une camionnette, etc. C'est impossible. Genre, je vais pas le mettre sur mon dos.
Et du coup, l'indemnité gros rouleur pour les travailleurs, vous auriez préféré ça, vous ?
Bah, écoutez, dans une situation idéale où les gens seraient payés correctement et où l'essence serait quand même trop chère, à la limite, ça aurait été quelque chose d'un peu plus intelligent que de la donner de façon
aléatoire, en fait.
Enfin, aléatoire à des universel. Gens qui. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui n'en ont pas besoin, il y a des gens qui en ont besoin. Normalement, quand on fait une mesure, c'est pour cibler les gens qui ont besoin de la mesure. Mmh. C'est pas pour la donner à tout le monde, parce que ça aussi, c'est un tout petit peu électoraliste.
Bon, on a bien compris en tout cas, Rémi, le message. On a bien compris ce que vous souhaitiez. Vous, c'était effectivement d'augmenter les salaires, tout simplement. Et dans ce cas-là, effectivement, si les salaires sont plus hauts, pas forcément besoin de compenser avec une ristourne carburant. Merci beaucoup, Rémi. Je vous souhaite une très très bonne journée, et puis surtout bon courage.
Ben merci à vous aussi.
À très vite et restez à l'écoute évidemment d'RMC. Dans un instant, les pépites de Quentin Dubois qui va nous rejoindre en studio, qui va nous parler ce matin, je crois, d'une histoire de crêpes géantes. Ça se passe dans le sud de la Bretagne. Il est 5h21.
RMC. 5h-6h,
Charles Matin, Pierrick Bonneau.
Dans l'actualité ce matin, le gouvernement qui va généraliser l'interdiction de laisser les portes ouvertes dans les magasins climatisés pour faire des économies d'énergie et imposer une réduction de la publicité lumineuse. Deux mesures qui vont être prises par décret, annonce de la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. La polémique autour de Gérald Darmanin et de son tweet sur les délinquants étrangers qui n'auraient pas leur place en France. À gauche, l'opposition accuse le ministre de l'Intérieur de chasser sur les terres du Rassemblement National.
Il semble vrai que l'envie de Gérald Darmanin de pouvoir rivaliser avec Marine Le Pen en termes de façon de taper sur les immigrés l'est emporté sur ce qui est normalement le travail d'un ministre de l'Intérieur.
Sandra Régol, députée écologiste du Bas-Rhin, que vous entendrez dans le journal de 5h30. Et puis une belle victoire française ce matin au Mondiaux d'athlétisme de Eugene aux États-Unis. Kevin Mayer remporte l'épreuve du décathlon, deuxième titre mondial pour le Français qui offre une première médaille à la France. La météo, Estelle Gaz, quelques pluies, quelques orages également ce matin.
Et oui, effectivement, ce matin, la pluie touchera la moitié ouest du pays pour atteindre l'est en fin de journée. 13 départements du quart sud-est qui sont toujours placés en vigilance orange. Il fait déjà entre 15 et 19 degrés sur le nord-ouest et entre 18 et 24 dans le sud. Cet après-midi, 29 à Reims, 32 à Nancy et Toulon, ou encore 22 à La Rochelle.
C'était la météo d'Estelle Gas, les pépites de Quentin Dubois. C'est tout de suite sur RMC.
Les insolites de Quentin.
Bonjour Quentin Dubois. Alors, allumez votre micro, Quentin, ce sera plus simple.
Bonjour à tous. Ah, j'ai pas appuyé sur le bon bouton, pardon.
Il y a trop de micros autour de vous, vous ne savez pas lequel.
Erreur de débutant.
Vous nous parlez ce matin, je crois, d'une crêpe et d'un record du monde de la plus grande crêpe. Ça se passe où, ça?
Ça se passe à Quérinet, en Loire-Atlantique. Ça s'est passé hier. Le record a été battu hier lors de la 40e édition de la fête de la Madeleine.
Ouais.
Les membres de l'association Les Métés y ont établi un nouveau record pour la plus grande crêpe du monde. Tenez-vous bien, 7,40 m la crêpe. Alors, si on veut être précis.
Diamètre.
Oui, c'est ça.
Oh là là.
Si on veut être précis, c'est la plus grande crêpe bio du monde non retournée. Alors, si c'est précisé non retourné, ouais. J'ai mené ma petite enquête pour savoir pourquoi. Et c'est tout simplement
parce que
la crêpe est trop grosse, donc on peut pas la retourner. Voilà.
Il faudrait des énormes spatules de 7 mètres de long. On imagine effectivement la difficulté pour trouver des instruments nécessaires. Et pour une crêpe de ce gabarit, quelle quantité d'aliments il faut?
Alors, pour une crêpe de 7,40 m, prenez note, hein, si vous recevez du monde prochainement, il faut 55 litres de lait, 300 œufs, 30 kg de farine, 6 kg de beurre. Et ça vous donne quelque chose comme 110 litres de pâte à crêpe pour environ 15 minutes de cuisson. Et sachez que la poêle géante qui a servi à cuire cette crêpe, tout aussi géante, a été faite maison. Et elle pèse plus de 2 tonnes.
Et c'est pas la première fois qu'ils battent ce record, hein, ces Bretons de Loire-Atlantique. Je sais que je vais rouvrir un débat là, mais on va dire que c'est des Bretons.
Et non, en 1989, les anciens, comme le dit si bien Gilles Legentil, président de l'association, avaient battu le record de l'époque avec une crêpe de 7,02 m. Et les membres de l'association ont 16 records à peu près à leur palmarès, dont celui du plus grand pot-au-feu ou de la plus grande brouette. En Loire-Atlantique, on adore les défis.
Eh ben, ça me donne faim tout ça. Quentin, on va passer à autre chose là. Une empreinte de dinosaure qui a été découverte dans la cour d'un restaurant chinois.
Et oui, ils n'ont pas cherché bien loin. Au début du mois de juillet, dans un restaurant de Leshan, une ville dans l'est de la Chine, un client un peu curieux a découvert par hasard une empreinte de dinosaure. Comme le rapporte le site de CNN, le client était en train de manger, observant les cailloux avant que quelque chose n'attire son attention. Il en a parlé au propriétaire qui a contacté des spécialistes compétents en fossiles. S'ensuit une série de tests et une conclusion. Il n'y avait pas la trace d'un, mais de deux dinosaures passés par ici il y a près de 100 millions d'années.
Comment c'est possible de découvrir des empreintes encore aujourd'hui? Tout n'a pas encore été découvert?
Alors, celles-là, si elles n'ont pas été découvertes plus tôt, c'est parce qu'avant qu'il y ait le restaurant à cet endroit, c'était une ferme de poulets, pour la petite histoire. Les traces étaient recouvertes et protégées par de la terre et du sable. Et lorsque le restaurant s'est installé il y a un an, le propriétaire a juste nettoyé l'endroit et a posé la terrasse.
Bon, c'est quoi comme dinosaure?
Non, c'est pas ça. Ce serait trop facile. Il appartient à la famille des sauropodes, si ça vous parle.
Non.
C'est comme le Diplodocus, ces dinosaures au long cou qui mangent des feuilles. Les ancêtres des girafes un peu.
D'accord, donc ces grandes bestioles, ils ont des ailes, non?
Leurs ancêtres avaient des ailes, oui.
Il me semble.
Oui, il me semble.
Des girafes.
Vous êtes calé un peu.
Okay, ouais, j'adorais jouer par contre j'étais petit. Direction Florence en Italie, merci Quentin, où les militants écologistes ont encore frappé des militants du groupe Ultima Generazione, dernière génération en français. Leurs actions visent à sensibiliser la population à la nécessité d'agir face à l'urgence climatique. Dernière action en date, ça se passe au tout début du mois au musée de la Galerie des Offices à Florence. Deux activistes qui ont littéralement collé leurs mains sur la vitre qui protège le célèbre tableau Le Printemps de Botticelli. L'action a été filmée. Vous entendez la réaction du personnel du musée. Sur les images, on voit une troisième militante déployer une banderole avec le message en italien « Dernière génération, plus de gaz, plus de charbon ». Les trois activistes ont été arrêtés par la police qui a réussi à décoller leurs mains de la vitre. Les militants affirment qu'il s'agit de la première étape d'une longue série d'actions dans les musées. Cette méthode de la main collée dans l'espace public est également utilisée par les militants de dernière rénovation en France. Et vous en avez forcément entendu parler ces derniers mois. Ce sont eux ou elles qui ont bloqué le périphérique parisien, fait irruption sur le central de Roland-Garros ou encore perturbé certaines étapes du Tour de France. Le gagnant du jeu tout de suite.
RMC, la voix du jour.
Gagnant du jeu qui a reconnu ce matin la voix du jour sur RMC. Allez, on la réécoute et on accueille notre heureux gagnant.
Je suis prêt à discuter de tout, sans tabou. J'ai mis deux lignes rouges, la Corse dans la République. Et j'ai dit qu'il y avait une possibilité que nous allions vers une évolution institutionnelle qui pourrait être l'autonomie. C'est une possibilité, voilà, c'est pas une obligation.
Bonjour Simon.
Oui, bonjour.
Alors, qui se cache derrière la voix du jour?
Il me semble que c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de la récente crise en Corse.
Exactement, il s'est rendu en Corse ce week-end pour régler la crise et parler autonomie. Bon, il n'y a pas vraiment de neuf, hein. Il est parvenu avec grand-chose. Mais c'est effectivement lui. Bravo Simon, vous gagnez une crème protectrice et hydratante Caresse sur ce dos de Kirinès et un sac de plage. Vous habitez où Simon?
Alors, je suis à Saint-Jean-le-Blanc.
C'est dans le Loiret, donc vous avez prévu d'aller à la plage ou pas cet été?
Oui, bien sûr.
Ah bon, bah très bien, vous aurez votre sac de plage et votre crème protectrice. Merci beaucoup Simon, je vous souhaite une très bonne journée.
Je vous en prie, je vous écoute depuis plusieurs années. Hein.
Bon bah c'est très et gentil.
Continuez ce beau travail là.
C'est sympa, merci à vous, très bonne journée. La météo et le journal à suivre.
RMC.
5h-6h, Charles Matin, Pierrick Bonnot.
Et c'est le premier d'une longue série de journaux pour Marguerite Dumont qui va vous informer tous les matins sur RMC. Bonjour Marguerite.
Bonjour Pierrick, bonjour à tous. Vive réaction après le cafouillage de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a réclamé l'expulsion d'un délinquant étranger mis hors de cause dans une affaire d'agression de policiers. Des élus de gauche l'accusent de flirter avec le Rassemblement National. 30 centimes de ristourne à la pompe dès septembre et pendant deux mois, la mesure ne convainc pas tous les automobilistes, elle ne profiterait qu'aux plus riches. Vingegaard, vainqueur du Tour de France, le Danois remporte pour la première fois la grande boucle. Le Français David Gaudu, lui, termine quatrième au général. Retour sur son très beau parcours dans ce journal.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, accusé d'aller trop vite et trop fort.
Hier sur Twitter, Gérald Darmanin annonçait l'expulsion d'un suspect étranger dans l'affaire des policiers attaqués dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Suspect mis hors de cause par le parquet de Lyon. Mais le ministre de l'Intérieur persiste et les oppositions montent au créneau. Hélène Terzian.
La déclaration à la hâte de Gérald Darmanin qui annonce l'expulsion d'un suspect étranger finalement mis hors de cause, c'est une façon pour Sandra Rogol, députée écologiste du Bas-Rhin, de flirter avec le Rassemblement National.
Il semblerait que l'envie de Gérald Darmanin de pouvoir rivaliser avec Marine Le Pen en termes de façon de taper sur les immigrés l'ait emporté sur ce qui est normalement le travail d'un ministre de l'Intérieur, à savoir vérifier ses informations. Ça veut dire que, encore une fois, la communication prime sur l'action.
Mais le ministre persiste et signe. L'homme en question est connu dans des affaires de vol, de violence, de drogue. Et quand un étranger trouble l'ordre public, dit son entourage, il doit quitter le sol national. Une posture que le député du RN, Philippe Ballard, a du mal à entendre.
Pourquoi ne le fait-on pas, en fait, à chaque fois, monsieur Darmanin? Les étrangers en situation irrégulière n'ont rien à faire sur le territoire national. Pour le Rassemblement national, il faut rétablir la double peine. Après la prison, c'est l'expulsion pour les prisonniers étrangers.
Beauvau veut faciliter l'expulsion des délinquants étrangers qui seraient arrêtés dans des opérations comme celle de la Guillotière et déjà connue pour des troubles à l'ordre public.
votre pouvoir d'achat vers un nouveau coup de pouce à la pompe. Dès septembre, on est à 18 centimes actuellement. On monte à 30 centimes à la rentrée. Et pendant deux mois, la majorité et le groupe Les Républicains à l'Assemblée ont trouvé un compromis. La mesure devrait être discutée dans le cadre du projet de finances rectificatives pour 2022. Bonjour Garance Munoz.
Bonjour.
Qui pourra en bénéficier et qu'est-ce que ça change ?
Cet été, tous les automobilistes peuvent profiter de cette remise à 18 centimes. En septembre et en octobre, elle pourrait donc passer à 30 centimes avant de tomber à 10 centimes en novembre et décembre. Elle devrait ensuite être supprimée ou remplacée en 2023. Satisfaits, les députés Les Républicains ont retiré leurs amendements. L'augmentation de la remise devrait donc être adoptée rapidement. Côté opposition, la NUPES dénonce une mesure pansement qui n'empêchera pas une nouvelle flambée des prix en janvier prochain. Le groupe pétrolier Total Energy a lui promis une remise de 20 centimes entre septembre et novembre, ce qui ajoute à la remise gouvernementale ferait tomber le prix du litre autour d'1,50 €. Autre mesure envisagée par Bruno Le Maire, une aide spécifique pour les petites et moyennes stations essence des zones rurales, aide qui devrait être répercutée sur le prix de l'essence à la pompe.
La remise à la pompe qui passe de 18 à 30 centimes en septembre, est-ce que vous êtes soulagé? Venez en débattre ce matin au 32-16 sur l'appli RMC, onglet direct studio, 5h34, Marguerite Dumont.
On continue évidemment avec ce fait divers, le corps d'une septuagénaire retrouvé dans le congélateur de sa maison. Une découverte macabre à Salsigne, c'est au nord de Carcassonne et c'était vendredi dernier. L'autopsie est en cours, les dernières précisions d'Ambre Le Poivre de notre service police-justice.
C'est en faisant ses courses dans le centre de ce petit village où elle habite depuis quelques années que la septuagénaire est aperçue pour la dernière fois. Après un arrêt à la poissonnerie, elle se volatilise et c'est son mari, inquiet de cette absence, qui alerte les secours. Quelques heures plus tard, le corps de sa femme est finalement retrouvé dans le congélateur de sa maison. Pour l'instant, les circonstances de sa mort restent mystérieuses. L'autopsie devrait permettre d'éclaircir certaines zones d'ombre. De quoi la victime est-elle morte ? S'agit-il d'un accident, d'un suicide ou d'un crime ? À ce stade, aucune garde à vue n'est en cours. Le mari de la victime a été entendu par les gendarmes en qualité de témoin et les investigations se poursuivent.
Merci beaucoup, Ambre Le Poivre. Bientôt, la fin du mois de juillet, on est le 25. Vous profitez sereinement de vos vacances et c'est tant mieux. Les professionnels du tourisme le sont beaucoup moins. Les saisonniers manquent 200 000 selon le syndicat hôtelier, l'UMIH. Conséquence, alors que l'on est en pleine saison, restaurateurs, directeurs d'hôtels doivent revoir leur planning et même leurs prestations. Océane est allée à leur rencontre.
C'est du jamais vu en 25 ans de métier, soupire Manuel Mercier, propriétaire de deux restaurants dans le Marais Poitevin. La saison est déjà bien avancée. Une vingtaine de membres du personnel, cuisinier et pâtissier, manquent encore à l'appel.
Face à cette pénurie de personnel, je ne travaille qu'à 50% de ma capacité, uniquement sur les services du déjeuner. Et j'ai même dû maintenir une journée de fermeture hebdomadaire en pleine saison.
Même constat pour Didier Giraud, directeur d'un relais à l'assaut à Pornichet. 10 postes sur 120 ne sont toujours pas pourvus. Alors pour rendre les postes plus attractifs, il a dû réorganiser le temps de travail de ses salariés.
On travaille sur des shifts de 11 heures. Ça peut paraître beaucoup, mais ça permet à nos collaborateurs d'être sur des semaines avec 3 jours de repos ou 4 jours de repos.
Plus de souplesse, plus d'efforts de la part des employeurs, c'est ce que demande Thierry Grégoire. Il est restaurateur et responsable de la branche saisonnière de l'Union des métiers de l'hôtellerie.
Si on veut retrouver de la main-d'œuvre dans nos secteurs d'activité, il va falloir à un moment donné qu'on ait des conditions de travail qui soient à la hauteur des demandes de nos demandeurs d'emploi.
Et Thierry Grégoire se dit prêt à une renégociation des salaires avec les syndicats dès la rentrée.
Reportage d'Océane Théard pour RMC. J'ajoute que le gouvernement a donné des instructions pour faciliter l'embauche des salariés. Préfets et recteurs sont priés par exemple de les héberger dans les résidences étudiantes, dans les chambres non occupées évidemment. Le sport, et c'est l'information de la nuit. Kevin Mayer, sacré champion du décathlon à Eugene aux États-Unis. Après sa médaille d'argent aux Jeux de Tokyo, le Français décroche son deuxième titre mondial et redevient avec 8816 points le meilleur décathlète du monde. Lui aussi savoure sa victoire. Et elle a un goût particulier, c'est la première. Jonas Vingegaard a remporté hier le Tour de France. Tout en discrétion, le Danois de 25 ans a réussi à renverser le favori Tadej Pogacar qui termine deuxième. Au pied du podium, c'est un Français, David Godou, à la quatrième place du classement général, lui aussi à 25 ans. Et son avenir est plein de promesses, Kevin Morand.
Oui, David Gaudu termine ce tour comme le meilleur du reste du peloton derrière les deux géants, Vingegaard et Pogacar, et l'ancien vainqueur du Tour Geraint Thomas, qui le devance de plus de 6 minutes. Le Breton a fait de son mieux, David Gaudu.
On a joué à l'effort curseur pendant 3 semaines, on va dire. On a réussi à être régulier, on a réussi surtout à éviter les pépins. J'ai réalisé de bons Pyrénées, on passe les câbles les années après les autres, donc on est très heureux, je pense, de cette performance.
Cette quatrième place, David Gaudu la doit aussi à son ange gardien en montagne, son coéquipier qui est aussi un copain d'enfance, Valentin Madouas.
Il a épaté beaucoup de personnes, lui-même il s'est épaté. Il avait confiance en lui, mais de là, aller chercher quatrième place, je pense pas. Et maintenant, il va sortir un mûri et il va revoir ses objectifs à la hausse pour le futur. Et je pense qu'on va avoir un grand Gaudu sur les prochaines éditions du Tour.
Gaudu pestait après l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Il n'avait pas réussi à suivre les autres leaders, mais il a trouvé le bon équilibre dans la gestion de son effort pour dépasser des concurrents de poids comme Quintana ou Bardet. Marc Madio, manager de la Groupama FDJ.
Il lui a fallu un peu de temps pour arriver, mais il était aussi un peu dans l'ombre de Thibaut. Je pense que c'est un tour qui va lui faire beaucoup de bien. Il y a eu des déclics qui se sont passés pour lui.
Le petit prince de Bretagne a fait naître des espoirs pour la suite et c'est où il doit encore progresser. Pour viser plus haut sur le contre-la-montre où il n'a réalisé que le 26e temps samedi à Rocamadour.
Le Quintet Plus Marguerite, il se déroule à Tarbes, sur l'hippodrome de Tarbes à 18h.
Et c'est à suivre sur RMC Découverte. Voici le pronostic de la Dream Team, le favori Vasimix et l'outsider Lingering Dring, le 9 et le 2 donc.
C'était Journal de Marguerite Dumont. À tout à l'heure, Marguerite. C'est l'heure de la Story Sport.
La Story Sport.
Bonjour, c'est Dag Dandeville.
Bonjour à tous.
On parle de cyclisme ce matin. Le Tour de France 2022 a livré son verdict hier à Paris. Une 109e édition, décidément aux couleurs du Danemark.
Et oui, ce dimanche, c'est bien l'hymne danois qui a retenti sur les Champs-Élysées. Sa petite fille de 2 ans dans les bras, le timide Jonas Vingegaard trône sur la plus haute marche du podium. La grande boucle est parfaitement bouclée. Un Danois remporte une compétition qui avait démarré le 1er juillet dans les rues de la capitale danoise. Un scénario parfait pour ce supporter.
C'est une histoire parfaite depuis le départ. De Copenhague à Paris aujourd'hui, c'est juste un scénario parfait.
Voilà, et c'est seulement la deuxième fois qu'un Danois remporte le Tour. Alors, on attendait plutôt un Slovène, Tadej Pogacar, mais Vingegaard a mis fin au règne du double tenant du titre. Le Danois de la formation Jumbo-Visma s'est emparé du maillot jaune lors de la 11e étape.
C'est le Tour des Danois, Jonas Vingegaard qui passe la ligne à l'instant, vainqueur d'étape.
Voilà, ça c'était le 13 juillet sur RMC. Vingegaard remportait une étape déjà légendaire dans le col du Granon. Il restera en jaune jusqu'au bout.
Mais pourtant, c'est un vainqueur méconnu du grand public. D'ailleurs, on ne sait pas trop comment ça se prononce. Thibaut Texier disait Vingegaard tout à l'heure.
Oui, bah, c'est plutôt la bonne version. C'est vrai qu'on entend pas mal de choses. À la française, ça donne Jonas Vingegaard. Mais si on veut faire le puriste, à la danoise, ça donne ça exactement.
Un entre-deux, quoi.
Jonas Vingegaard, on va dire. Voilà, il va falloir s'habituer, hein, car on risque bien de retrouver le coureur tout en haut dès l'année prochaine.
D'abord, je veux célébrer ma victoire sur ce tour. Je suis évidemment très heureux. Et bien sûr, je veux revenir pour essayer d'en gagner un autre.
Alors Vingegaard, parti pour régner, en tout cas le Danois a remporté hier son premier Tour de France pour sa deuxième participation seulement et il n'a que 25 ans. Ça promet, il va donc falloir continuer à travailler son Danois. Jonas Vingegaard, on se la retente ?
Jonas Vingegaard.
Voilà, parfait. Waouh, avec le petit accent. Pas mal.
Eh oui, on croirait que j'ai vécu là-bas, mais pas du tout. Merci beaucoup.
Non, il suffisait de suivre le Tour sur RMC, voilà, pour apprendre à travailler son Danois. Voilà.
Cédric Danville, merci, 5h41. Faut-il réduire les délais de contentieux pour la construction d'éoliennes pour qu'elles puissent sortir de terre plus vite? C'est l'une des questions qu'on vous pose ce matin. Venez nous dire ce que vous en pensez des éoliennes au 32-16 ou sur l'appli RMC onglet Direct Studio. Dans une interview au Journal du Dimanche hier, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, annonce que le délai qui permet aujourd'hui aux opposants de contester un projet d'installation d'éoliennes va être ramené à 10 mois. Qu'une décision ait été prise ou non, objectif accélérer la construction d'éoliennes. Selon Fabrice Cassin, avocat en droit de l'environnement, cette décision pourrait permettre à la France de rattraper son retard en matière de parc éolien.
C'est une bonne décision du ministre qui va dans le bon sens, qui tire les conséquences des recours systématiques des opposants, quelle que soit la nature du projet, puisque c'est pour faire échec à la politique publique de l'éolien. Compte tenu de la masse des recours, 75% des autorisations délivrées par les préfets sont contestées. Donc les cours administratives d'appel mettent 2 ans, 4 ans. À juger aujourd'hui les autorisations délivrées, pour les valider à 90%. Ça va accélérer surtout la mise en service, puisque
tant que l'autorisation n'est pas purgée de tout recours, on n'a pas les financements. Donc c'est pour ça que ça va débloquer une partie des projets en attente.
Et du côté des associations anti-éoliennes, cette annonce est évidemment une mauvaise nouvelle. Jean-Louis Butteret, le président de la Fédération Environnement Durable.
C'est beaucoup trop court, parce que dire 10 mois, ça veut rien dire face à la justice et face à des dossiers. Ils sont pas tous pareils. Il peut y avoir un dossier d'une petite éolienne quelquefois, mais en 10 mois, peut-être qu'en effet, on peut tout gérer. Vous avez un parc éolien de 30 ou 40 ou 50 machines, comme on voit maintenant dans certains coins. C'est des dossiers géants. Vous avez plein d'études. Un dossier d'impact, c'est des fois 4000 pages. Ça peut prendre, si vous voulez, deux ans. Et c'est absolument scandaleux parce que ça enlève, si vous aimez mieux, à des gens qui, eux, ont peu de moyens, les associations ont peu de moyens, des possibilités de se défendre. Vous imaginiez une cour de justice et vous dites, et voilà, il faudra que ça sera bouclé en 10 mois.
Les éoliennes, venez en débattre au 32-16 sur l'appli RMC Onglet Direct Studio ce matin, où vous débattez également avec nous de la question du jour, la remise à la pompe qui va passer de 18 à 30 centimes en septembre. Est-ce que vous êtes soulagé? J'accueille au 32-16 Fabrice. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Vous habitez en Seine-et-Marne, Fabrice. Que faites-vous dans la vie, Fabrice?
Je suis transporteur routier.
Donc, vous avez forcément besoin de l'essence pour aller travailler. Alors, vous en pensez quoi de cette remise à la pompe qui va durer, qui va même prendre de la valeur?
Oui, c'est de la fumisterie, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme dirait...
Pour reprendre l'expression de Emmanuel Macron, ouais.
Exactement, puisque si c'est 30 centimes durant les deux prochains mois, là, en septembre et octobre. Et ça retombe ensuite à 10 centimes. Donc si on...
C'est ça.
En novembre-décembre. Exactement. Si on fait le lissage sur 4 mois, on constate juste qu'on tombe sur une moyenne de 20 centimes et qu'ils ont rajouté juste 2 petits malheureux centimes. Parce que si on refait encore un lissage sur depuis qu'il y a les 18 centimes, on est à moins de 20 centimes de remise. Alors sur le paquet de taxes perçues sur le carburant, ça s'appelle juste des miettes, quoi. Donc faut pas essayer d'endormir les gens comme ça. C'est prendre les gens pour des cons, très clairement.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous alors?
Bruno Le Maire, il essaie d'endormir les gens avec ses discours de magicien, avec j'aime pas les taxes, je préfère l'argent dans la poche des Français au lieu dans les caisses de l'État. Pourquoi il diminue pas la taxe sur le carburant à 5,5? Parce qu'ils sont en train de dire que ça coûterait trop cher, ça coûte rien du tout trop cher. C'est juste de l'argent qui ne rentre pas. C'est pas de l'argent qu'ils dépensent, c'est de l'argent qui ne rentre pas. Demain, je vais caricaturer un peu le truc. Demain, si toute personne ne roule avec leur voiture, ça leur coûte rien, c'est de l'argent qui ne roule plus, qui ne rentre plus. Si demain tout le monde passe à l'électrique, on dit qu'il faut faire des économies, la taxe sur la carburant, elle existe plus. Ça coûte rien, c'est de l'argent qui ne rentre pas, c'est tout. Faut arrêter d'endormir les gens, quoi.
Restez avec nous, Fabrice, on va accueillir Jackie qui nous appelle de Nantes. Bonjour Jackie.
Bonjour. Je suis 200% d'accord avec lui.
Vous êtes à 200% d'accord avec Fabrice, ouais. Pourquoi?
Mais tout à fait. Pour la simple et unique raison, c'est que les 30% vont bénéficier à tout le monde. Je m'explique. Vous avez des personnes, 30 centimes, des personnes qui ont des gros salaires et qui n'ont pas besoin de leurs 30 centimes pour mettre des pleins d'essence. Nous, y compris la personne qui est passée auparavant, croyez qu'on gagne des 1000 et des 100? Par contre, nous, on est
les oubliés.
Porteur de presse.
Et vous avez 71 ans, donc vous travaillez toujours?
Tout à fait, avec une retraite de 800 balles, à moins de faire la manche, mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Vous prenez des métiers, par exemple, ingénieur, pilote de ligne, des trucs comme ça. Est-ce que vous croyez qu'ils attendent les 30 centimes de monsieur Bruno Le Maire pour mettre des pleins d'essence? Non, c'est nous. C'est nous, et à chaque fois... Donc, il n'y a pas de justice dans ce pays. Quand on dit « Monsieur Macron est le président des riches », la preuve, elle est là, elle est pas ailleurs, c'est-à-dire on donne à tout le monde.
Selon vous, Jackie, il fallait plutôt opter pour l'indemnité gros rouleur pour ceux qui travaillent, c'était une meilleure solution, ça?
Mais tout à fait, tout à fait. Et moi, je suis pour tout ce qui est le social, que ça soit bien analysé avant de donner de l'argent aux personnes qui foutent rien. Excusez-moi, sont en bonne santé, qui ne travaillent pas. Ouais. Quand on voit la pénurie de main-d'œuvre qui est en France, et alors, l'économie devrait être celle-là.
C'est un autre
excusez-moi,
sujet, Jacques,
juste, je conclue.
Allez-y, je vous en prie.
Mais Monsieur Macron et sa clique, faudrait plutôt qu'ils s'inquiètent, parce que moi qui fréquente le milieu des salariés, quoi qu'il advienne, ça va lui péter à la gueule.
Fabrice, vous êtes d'accord avec ce que Jacques vient de dire?
Je suis d'accord en partie. La manière dont ils auraient pu cibler cette indemnité gros rouleur, elle est vraiment très très simple. Hein, elle est vraiment très simple.
Et c'est ce qui était prévu à la base, mais bon, ils ont négocié avec les députés des Républicains.
Ils ont tourné autour du pot. Il suffisait pour cela de déterminer qui en a besoin. C'est en se référant aux fichiers cartes grises, en regardant les puissances fiscales des véhicules, d'accord, et de limiter la grosse remise, une grosse remise au carburant. Je ne sais pas, par exemple, aux personnes qui ont des véhicules de jusqu'à 10 chevaux fiscaux maximum. Je veux dire, dans une déclaration aux frais réels, on a un barème qui est structuré par rapport à ça. Ils auraient très bien pu le faire. Bon, alors vous allez me dire que ils auraient pu. Il y a certaines personnes qui peuvent disposer et de plusieurs véhicules et que à ce moment-là de se présenter avec le petit
bien sûr,
véhicule
oui.
pour bénéficier d'une grosse remise. Il suffit de prendre pour quelqu'un qui a plusieurs véhicules, il suffit de prendre son plus gros véhicule et comme ça ne peut pas passer au travers. Il y a plein de manières de le faire et ils n'ont pas voulu le faire, donc c'est volontaire.
Voilà. Merci Fabrice, merci à vous deux, Fabrice et Jacques, d'être venus témoigner avec nous ce matin, d'être venus débattre sur cette ristourne donc qui va se poursuivre. 5h49.
RMC.
5h-6h, Charles Matin, Pierrick Bonneau.
6h-10 dans l'actualité ce matin, les débats qui vont reprendre à l'Assemblée sur le deuxième paquet de mesures pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Un accord a été trouvé entre la majorité et les députés les Républicains sur le prix du carburant. Le gouvernement propose finalement que la remise passe de 18 à 30 centimes pour tout le monde en septembre et en octobre. Qu'en pensez-vous? Appelez-nous au 32-16, on en reparle tous ensemble à 6h10. Kevin Mayer, sacré champion du monde de décathlon ce matin à Eugene aux États-Unis, deuxième sacre pour le Français. 5 ans après le premier, Kevin Mayer apporte à la France sa première médaille aux Mondiaux d'athlétisme. Restez avec nous tout de suite, c'est l'été d'Angèle consacré au festival traditionnel ce matin, juste après la météo. C'est avec vous.
Oui, des averses et des orages attendus aujourd'hui sur tout le pays. Elles toucheront le nord-ouest avant de se décaler vers l'est. Et puis toujours 13 départements en vigilance orange dans le quart sud-est.
Estelle Gas, merci à vous.
L'été d'Angèle.
Ah, c'est pas facile ce matin, on est lundi.
C'est lundi.
J'ai du mal à parler. Bonjour,
bonjour Pierrick.
Je suis l'été d'Angèle avec vous. Tous les matins de l'été, on connaît les festivals de musique, Angèle, mais vous nous parlez des festivals traditionnels, ceux qui célèbrent les cultures locales.
Oui, et je vous emmène d'abord à Aigues-Mortes, dans le département du Gard, car là-bas, il y a la fête de la Saint-Louis, une fête qui nous fait revenir tout droit dans l'époque médiévale. Alors on s'y croirait, tout est fait visiblement chaque année pour vivre un moment hors du temps, des spectacles, des animations, des gens déguisés, du théâtre et même un feu d'artifice. Et ça, ce n'est pas pour rien que cette fête a lieu ici, c'est historique, Pierrick. Ouais.
Vous êtes aussi prof d'histoire ce matin.
Oui, je m'improvise prof d'histoire. Parce que cette fête de la Saint-Louis n'a pas lieu à cette période par hasard. C'est parce que le 25 août 1248, Louis IX a embarqué pour la 7e croisade depuis le port d'Aigues-Mortes. Et Saint-Louis n'était autre que son surnom. Alors la prochaine édition de la fête de la Saint-Louis pour revivre l'histoire aura lieu les 27 et 28 août. Vous nous raconterez si vous y êtes.
Oui, il y a la fête des joutes aussi à cette de la Saint-Louis. Vous savez, ces gros cotons-tiges qui permettent on est sur des bateaux et puis on se pousse avec des gros
tiges.
N'hésitez pas à nous raconter effectivement, Angèle, si j'ai envie de célébrer la culture bretonne, je vais où? Tiens, ça m'intéresse justement.
Eh bien, je sais bien que vous aimiez aussi les costumes traditionnels bretons, la cornemuse, la musique celtique. Eh bien, pour vivre tout ça, Pierrick, il va falloir que vous preniez un train direction Lorient. L'autre rendez-vous traditionnel, c'est le festival interceltique de Lorient, le fameux avis à tous les bretons et amateurs de cette culture bloqué la période du 5 au 14 août.
Bon, moi je sais ce que c'est que ce festival en bon breton, mais expliquez à nos auditeurs.
Et bien
c'est le festival interceltique.
C'est un festival qui réunit des dizaines de groupes des pays et régions d'origine celtique pendant 10 jours et 10 nuits. 800 000 visiteurs chaque année, dont Pierrick Bonneau. Et ce festival existe depuis les années 70. Comme quoi, la culture celtique a encore de beaux jours devant elle, même en 2022. Et ce n'est pas Jean-Philippe Morat, directeur du festival, qui dira le contraire.
La force de la culture celtique, c'est déjà, on a un point commun, au moins au niveau de l'Europe, qui est quand même le berceau originel, c'est ce rapport à l'océan, puisque la caractéristique de toutes ces nations celtes, c'est l'océan Atlantique. Tradition signifie souvent fête, convivialité, le partage, le phénomène de partager ensemble des choses, ça c'est un point commun, le phénomène de danser ensemble, le phénomène de faire de la musique, de partager des repas, parce que on parle de la culture, c'est sur tous les plans, on entend tous les accents, comme on dit à l'Orient, on entend toutes les musiques, on n'est pas sur une culture qui aurait sa place uniquement dans un musée, ce qui fait que génération après génération, on se passe le relais de cette envie de communier ensemble, de partager. Et à l'époque où on est dans une société qui, on pourrait dire de temps en temps, qui vise beaucoup l'individualisme, ou le repli des fois sur soi, d'avoir des moments festifs, des moments ensemble, c'est important.
Et oui, comme le sport, les traditions, fêter les cultures locales, ça rassemble.
Oui, c'est un beau programme et c'est une belle philosophie.
Vous y serez, Pierrick, j'imagine.
C'est quand exactement, vous m'avez
dit ? Alors, c'est du 5 au 14 août.
Eh bien, je n'y serai pas. Malheureusement, je ne pourrai pas être en Bretagne.
Vous, si vous y êtes, vous nous racontez.
L'année prochaine. Allez, vous avez un dernier festival pour la route.
Oui, je vais vous faire danser cette fois au festival de Confolens, direction donc la Charente, pour ce rendez-vous des arts et traditions populaires du monde, avec des artistes qui viennent d'Uruguay, d'Italie, de Slovaquie et de partout dans le monde. Objectif, célébrer la danse et les cultures du monde. Et si je vous en parle, c'est aussi parce que ce sera le lieu idéal pour vos enfants, avec le Festibambin, des animations créées spécialement pour les jeunes festivaliers de 6 à 11 ans. Là, le rendez-vous est donc pris du 9 au 15 août.
Merci Angèle, je crois que vous êtes normande, vous n'en avez même pas parlé de la Normandie.
Non, c'est vrai, je suis fair play, parce que malgré tout, j'ai quand même parlé d'un festival breton. Puis on connaît nos petites guéguerres amicales, c'est à qui le Mont-Saint-Michel?
C'était un breton.
Non, c'est normand.
Mais elle a été décalée, la frontière.
C'est la Bretagne,
magique. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci Angèle, à demain pour un nouveau rendez-vous de l'été d'Angèle, tous les matins à 5h50 sur RMC. Bonjour Sébastien Krebs.
Salut Pierrick Bonneau, salut Angèle.
Bonjour,
ça va, vous êtes en forme?
Super.
Je vais vous rejoindre dans quelques secondes dans un autre studio tout près d'ici. Quel est le programme de la matinale ce matin?
On va beaucoup parler des prix du carburant, mais je crois que vous avez déjà commencé à en parler.
Oui,
Angèle,
ça réagit pas mal,
J'attends aussi Angèle qui, évidemment, sera là juste avant 8h pour son été. Vous êtes breton, Pierrick, c'est ça que j'ai bien compris?
Breton.
Il y a un breton et une normande dans le studio.
L'Atlantique, c'est toujours le débat, on sait jamais. Vous jouez du bignou, alors?
Oui, presque.
Bien sûr.
Je le ramène en studio, j'arrive tout de suite avec mon bignou.
À tout de suite sur RMC.